La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de La Voix des Arts, toujours consacrée au 7e art, c'est-à-dire au cinéma, en compagnie des femmes, des créatrices, des pionnières qui ont occupé des fonctions diverses, comme monteuse, technicienne, scénariste, réalisatrice, productrice, entre autres. C'est dire que je parle surtout de celles qui sont restées dans les studios ou derrière les caméras, même si elles ont pu se retrouver devant pour certaines. Alors la fois dernière, nous en avions rencontré 6, toutes nées à la fin du 19e siècle, et qui ont accompagné les prémices du cinéma. Alors elles étaient actrices, parfois, mais aussi scénaristes, monteuses, techniciennes, ou même productrices. Alors après les américaines Maud Adams, Tigré Becker, Léa Baird, Ruth Bedwin, Mabel Normand et l'anglaise Dorothea Baird, ben je vois arriver vers nous une blonde platine, à la beauté plantureuse et conquérante, une femme de tempérament à n'en point douter, et vous pouvez en être sûr au franc-parler quelque peu bravache, caustique, parfois à la limite de la bienséance, si ce n'est qu'une bonne dose d'humour relève ses propos et nous les font accepter avec un certain amusement. Alors oserais-je dire que nous faisons face à ce que je vais me risquer d'appeler, n'ayons pas peur des mots, un char d'assaut au féminin, du « poussez-vous, j'arrive ». Mais peut-être avez-vous deviné de qui je parle ici, si vous êtes amateur du 7e art depuis ses débuts ? Eh bien, en effet, il s'agit de Mae West, actrice de son état, meneuse de revue et chanteuse, mais également scénariste. Or, celle-ci est née en 1893 et elle a régné pendant une vingtaine d'années, à partir de 1920, sur le monde cinématographique et sur les esprits masculins qui se sont, pour la plupart d'entre eux, ben, j'ai l'impression, quelque peu ramollis à son contact. Alors figurez-vous que je ne suis pas si loin de la réalité en la comparant d'une certaine manière à un char d'assaut, car elle a si bien impressionné la gente masculine que les aviateurs américains de la Seconde Guerre mondiale ont baptisé leur gilet de sauvetage, alors je vous le donne en mille, eh bien Mae West. Alors bien évidemment, en référence à ses attributs féminins, une devanture remarquable qu'elle savait parfaitement mettre en évidence et en première ligne de tous ses combats. Et figurez-vous que le nom est resté. Alors pour en revenir au cinéma, maintenant que nous avons fait, bon non pas le tour de sa poitrine, hein, quoique, mais plutôt la description du personnage, voyons sa filmographie. Alors son premier rôle principal, car elle en a tourné d'autres moins importants, ce sera dans le film intitulé « Lady Lou », qui est la traduction française de « She Done Him Wrong », réalisée en 1933 par Lowell Sherman, où elle incarne une croqueuse de messieurs, doublée d'une croqueuse de diamants sur fond d'intrigues policières. Et il paraît que grâce à ses apparitions, elle aurait même sauvé de la faillite la Paramount en grande difficulté financière. Alors il faut aussi noter que Mae West est actrice depuis les années 1910, qu'elle est passée par le musical et la comédie musicale, puis ensuite elle n'a fait que progresser, si bien que dans les années 30, elle est l'une des stars féminines les plus en vue et les mieux payées d'Hollywood. Alors c'est une femme qui provoqua quelques scandales, mais qui apparemment s'en fichait complètement. Et en effet, elle était auteure de pièces de théâtre, dont deux ont été sorties des programmes avec force et fracas, car en effet, Mae West, dans l'une d'elles intitulée « Sexe », bon, rien que le nom est explicite, abordait la prostitution, et dans l'autre, bon, histoire d'en mettre une petite couche, c'était l'homosexualité new-yorkaise qu'elle mettait sur le tapis dans un film intitulé « The Drag ». Bref, la dame ne faisait pas dans la dentelle Et je crois même qu'à la suite de tous ces scandales, elle s'est retrouvée derrière les barreaux pendant un petit laps de temps, ce qui, à mon avis, n'a pas dû beaucoup l'impressionner, vu le personnage. Alors à l'écran, évidemment, elle incarne des personnages peu conventionnels. Ce sera par exemple pour un rôle de théâtre qui sera repris pour le cinéma dans ce film que j'ai évoqué intitulé « She Done Him Wrong », lequel est connu en français sous le titre de « Lady Lou ». C'était une création théâtrale de Mae West elle-même qu'elle a adaptée au cinéma. Bon, il est dit qu'elle était scénariste, dialoguiste de presque tous ses films, car avec Mae West, eh bien, nous rentrons dans le cinéma parlant. Alors, son registre, c'est plutôt un registre comique, hein, où ce qu'elle propose d'elle est plutôt théâtral ou grandiloquent, hein, on va dire, à son image. Elle se servira du chant, de la danse, de l'humour pour camper des personnages hauts en couleur, plutôt caricaturaux, que ce soit des femmes du monde ou des séductrices. Ses goûts musicaux la porteront aussi à interpréter des chansons du répertoire afro-américain, car elle impose aussi ses goûts musicaux à l'écran. Et ses répliques aussi sont célèbres. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous en citer quelques-unes, comme celle-ci. Alors je cite « Quand je me conduis bien, je suis très bien, mais quand je me conduis mal, je suis encore mieux. » Ou alors, en parlant des hommes, « Si par nature l'homme est une bête de sexe, ben j'ai toujours eu des animaux de compagnie. » Ou bien, « Un homme amoureux est comme un coupon de réduction, il faut le faire passer à la caisse sans plus attendre. » Bon, vous avez de quoi méditer sur les assertions de Mae Westienne, je vais dire. Bon, allez, encore une petite dernière pour la route, sur l'idée qu'elle se faisait du regard de l'homme sur la femme. Pas si loin de la vérité que ça, d'ailleurs, pour certains. Alors, je cite « Les hommes aiment la profondeur chez les femmes, mais seulement dans leur décolleté. » Bon, mesdames, messieurs, hein, si vous avez quelque chose à ajouter sur les assertions de Mae West, à vous la parole. Alors, je vais citer aussi quelques films de Mae West. Alors, « Je ne suis pas un ange », bon, c'est le titre du film, mais on s'en doutait qu'on n'en était pas un de toute façon. Ce film a été réalisé en 1933 par Wesley Ruggles. Lady Lou date d'ailleurs de la même année. Ce n'est pas un péché de 1934, film de Léo McCarré. Je veux être une lady de 1935 d'Alexander Hall. Mon petit poussin chéri, c'est mignon, en 1940 d'Edward Klein. Alors vous pouvez constater qu'avec Mae West, hein, c'est tout un programme. Et après cette carrière mouvementée et haute en couleurs, elle écrira son autobiographie dans les années 50 pour décéder en 1980 à l'âge de 88 ans. Alors nous allons rester dans l'ambiance et profiter du son pour écouter Mae West, elle-même, interpréter une chanson intitulée « Stranger in Town »,« L'étranger dans la ville », chanson tirée d'un film de Grégory Ratoff, réalisé en 1943, pardon, et dans lequel, bien évidemment, Mae West joue et interprète des chansons.
I didn't come to town to visit your aquarium. I think of fish's places on the sea. I heard you've got a simply lovely planetarium, but looking at the stars is not for me. Now don't drag me through your museum. A picture postcard will do. Don't give me souvenirs, I got no room to carry them. The only souvenir I want is you. I'm just a stranger in town, and I've come down for real hospitality. Well, all right, then baby, too late. Be good to a stranger in town. I'm here to melt out of freeze in times like these. Let's skip the formality. baby, please be good to a stranger in town.
Boy, she's sizzling tonight.
That don't help nobody. I bet you the notice goes up come Saturday. We can smell his flop clear to Times Square.
Yeah, and in this theater too, where Ferris and Lawrence had all their smashes.
Your something is yours. A stranger today, but that's okay. A mere technicality. Well, all right, tonight is tonight, and baby, you're breaking me down. So be good to a stranger in town.
Alors nous allons aborder le destin d'une autre femme qui, elle, évolue dans un autre registre et qui, mine de rien, a utilisé le cinéma au service de valeurs et d'une ouverture de conscience sur des problèmes de société. Il s'agit de Dorothy Davenport Redd, qui est née en 1895 et qui fut actrice, scénariste, réalisatrice et productrice. Alors, ses parents, Harry Davenport et Alice Shepard, étaient tous les deux des acteurs. Elle-même commencera à jouer très tôt dans des courts-métrages muets pour se diriger ensuite vers des réalisations plus importantes. Elle épousera d'ailleurs un acteur nommé Wallace Redd, également réalisateur, et avec qui elle tournera presque une quarantaine de films. Mais celui-ci décédera prématurément. Alors, il faut dire qu'il était toxicomane. Et à ce qui paraît, suite à un accident ou pour lutter contre la douleur, il aurait pris trop de morphine jusqu'à en devenir addict et apparemment en mourir. Si bien que Dorothy Davenport Redd a utilisé le sujet de la drogue pour présenter un film en 1923 intitulé « Human Wreckage » qui aborde le commerce illégal de stupéfiants et les conséquences qui en découlent. Alors dans ce film, elle apparaît sur tous les tableaux puisqu'elle est productrice, réalisatrice, scénariste et comédienne. En tout, elle aurait réalisé trois films à orientation sociale. Alors ceux-ci traitent de la toxicomanie, de la délinquance juvénile et de la prostitution. Et il semblerait qu'elle fût une militante pour des sujets sensibles. Alors dans ce film à caractère social intitulé Broken Laws de 1924, qui traite d'une relation mère-fils, elle nous montre une mère trop conciliante face à un fils qui restera immature et qui, par légèreté, commettra un homicide involontaire. Alors, pour le film qui traite de la prostitution, apparemment, elle fut, sans que je puisse le certifier, co-réalisatrice avec un réalisateur nommé Walter Lang. Bon, ce que j'ai lu est mitigé. Donc, c'est un film daté de 1925 qui est intitulé « Le kimono rouge »,« The Red Kimono », qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui tue l'homme qu'elle aime parce qu'il la contraint à se prostituer avant de l'abandonner en emportant l'argent qu'elle a gagné pour en épouser une autre. Enfin, voilà une qui a tout faux dans sa vie. Bon. Et ce n'est pas forcément une fiction, hélas. Alors, ce genre d'histoire arrive. En tout cas, ce film aborde le calvaire de cette femme qui, par amour, est mal tombée et devient une esclave. On a souvent abordé à certaines époques la traite des blanches, qui fut une réalité qui, malheureusement, peut l'être encore. Or, finalement, cette femme devient la proie et la victime de la société. Alors, entre autres films, elle a réalisé en 1934 « The Woman Condemned », un thriller qui raconte l'histoire d'un journaliste qui tente de prouver l'innocence d'une femme accusée de meurtre. Et elle produira, à ce qu'il paraît, en tout une douzaine de films entre 1923 et 1938. Alors apparemment, elle a eu une longue carrière. Si elle ne jouait pas comme actrice, ni ne produisait ou réalisait, elle s'impliquait comme scénariste dans de nombreux films. Et elle décédera relativement âgée en 1977, à l'âge de 83 ans. Alors, je vais continuer de vous parler encore des Américaines, hein, toujours de celles nées fin 19e siècle avant 1900, même si d'autres de la même époque, venues d'Europe, d'Orient ou d'Asie, se présentent. Alors, ce que je constate hein, également, c'est que ces femmes évoluent au sein de leur famille et parfois celles-ci sont liées au cinéma. Et elles participent ainsi au développement des studios créé par leur conjoint, à l'exemple de l'américaine Paula Hilburn, connue également sous le nom de Paula Deen, qui est née en 1881. Alors elle était actrice, écrivaine, réalisatrice et même costumière. Alors il est dit qu'elle a joué dans 8 films et en a écrit 7 pour la Vitagraph Company, un studio de cinéma cofondé par Stuart Blackton, et qu'elle deviendra par la suite Madame Blackton en l'épousant. Et justement, après avoir joué avec lui dans un film intitulé « Monsieur Beaucaire, les aventures d'un gentilhomme de France », produit en 1905. Alors elle fondera ensuite une famille avec ce producteur, réalisateur, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à travailler pour la Vitagraph, tout d'abord en écrivant une série de 6 courts-métrages, intitulé « Histoire de vie à la campagne de Paula Blackton », où elle fera jouer ses propres enfants dans des films produits et réalisés par son mari. Alors, 3 autres femmes se joindront à elle après 1916 pour participer au développement cinématographique et à celui du studio Vitagraph. Elles se nomment respectivement Marguerite Bertsch, Lucille McVeigh, qui en collaboration avec son mari Sidney Drew travaillera en tant que réalisatrice et actrice de 1914 à 1916, et Liliane Chester, écrivaine, dramaturge, co-réalisatrice et co-scénariste. Bon, apparemment, la famille Blackton tentera sa chance en Angleterre pour fonder la Blackton Productions, et c'est là surtout que Paula se découvrira des talents de costumière et apportera sa contribution dans quelques films. Or, lorsque je vous dis qu'il s'agissait d'une famille qui se dédiait au cinéma, il semblerait que ce soit juste, car les enfants, même adultes, continueront de jouer, de se produire, ou même d'écrire des scénarios. Et c'est le cas de Marianne Constance Blackton, née en 1901, qui est la fille de Stuart Blackton et belle-fille de Paula. Alors, il faut dire à son actif que monsieur épousera 4 dames, concevra des enfants, lesquels grandiront à proximité ou au sein des studios, puisque même ils seront invités à tourner tout jeunes dans les films. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, Marianne Blackton, qui s'intéressait peut-être un peu plus près à la vie dans les studios, deviendra la scénariste de son père en 1921, et obtiendra par la suite, en 1924, son diplôme de scénariste. Et il est dit que ses scénarios mettent en scène surtout des drames adaptés de romans ou de pièces de théâtre. En tout cas, sa présence est telle qu'elle deviendra une figure incontournable des plateaux. Et c'est elle qui influencera son père, notamment sur les carrières des personnages féminins, en l'aidant à sortir de ses propres conceptions d'un idéal féminin pour proposer des portraits un petit peu plus diversifiés. Apparemment, la collaboration est fructueuse, si bien que même employée ailleurs, elle continuera à travailler pour son père. Et cela se poursuivra dans le temps. Elle acceptera également de jouer dans de petits rôles au cinéma sous la direction de son frère, du même nom que son père, Stuart Blackton, et épousera ensuite un producteur à la fois écrivain et acteur, nommé Larry Trimble en 1941. Or, celui-ci avait également fondé en 1913 une société de production avec une actrice nommée Florence Turner, qui lui a donné son nom. Puis ensuite, en 1922, il fondera la Trimble Murphy Production. Alors, que dites-vous d'écouter un petit peu de musique des années 20 ? Bon, je vous propose une musique plutôt entraînante, plébiscitée par un public avide de se trémousser avec bonheur sur des accords joyeux. Il s'agit du Charleston, créé aux États-Unis. Bon, il paraît que cette musique et danse doit son nom à la ville de Charleston en Caroline du Sud. Mais rien ne vous empêche de vous défouler sur cette musique et place au Charleston, musique par Ray Charles. Maintenant que vous vous êtes un peu ragaillardi, peut-être réveillé, sait-on jamais, parlons un peu de Florence Turner, qui, même si elle est souvent passée devant les caméras, notamment de la Vitagraph, trouva également un intérêt à passer derrière. Alors elle est née en 1887 et deviendra une actrice plutôt célèbre en son temps et dont le talent de comédienne était vraiment valorisé à cette époque, tant elle était habile à faire passer les émotions. Alors, en dehors de son travail de comédienne, au sein du studio, elle pouvait aussi prêter main forte en assumant d'autres fonctions, notamment comptable ou de supervision des autres acteurs, et même pour l'écriture de script. Enfin, quoi qu'il en soit, elle tournera avec succès jusqu'au moment où elle décidera de quitter l'Amérique pour se rendre en Angleterre et se lancer dans la création de sa propre société de production, la Florence Turner Film, à laquelle se joindra Larry Trimble. Et je pense que ses expériences multiples au sein d'un studio de cinéma lui auront été profitables pour prendre en main la direction de son studio, de son propre studio de production. Ce qui ne l'empêchera pas de continuer de tourner en tant qu'actrice en Angleterre, d'asseoir sa renommée tout en assumant ses nouvelles fonctions. Alors l'un de ses films, intitulé My Old Dutch, réalisé en 1915, remportera d'ailleurs à son crédit un énorme succès sur le marché international et il sera même apprécié aux États-Unis. Alors, durant son périple, elle prendra également le goût pour la réalisation. Il est même dit que dans les années 1910, elle aurait réalisé et écrit les scénarios d'au moins 6 films. Alors, il y en a un intitulé Daisy Doodads Dial de 1914 que Florence Turner aurait écrit et réalisé et dans lequel elle aurait été la vedette. Or, ce film, un court-métrage, est marquant surtout pour valoriser ses prouesses artistiques et ses dons pour faire des grimaces. Et d'ailleurs, vous pouvez le visionner sur YouTube si le cœur vous en dit. Mais ce qui est à relever également et qui est intéressant parce que elle participe en quelque sorte, comme la plupart de ses consoeurs, à attirer grâce au 7e art l'attention d'un public sur les injustices et les problèmes sociaux, il s'agit d'un film à orientation plutôt féministe intitulé Shop Girls, qui est conçu cette fois pour mettre un coup de projecteur sur les conditions de travail des vendeuses dans les grands magasins, celles-ci étant très mal rémunérées. Et le but recherché semble bien être celui de provoquer un débat public sur cette situation. Aussi, Florence Turner interprétera elle-même le rôle d'une vendeuse si démunie qu'elle songe à se prostituer pour survivre. Alors, d'après ses dires et pour justifier son film, elle aurait enquêté elle-même dans un grand magasin new-yorkais. Alors, nous allons maintenant dire au revoir à nos créatrices du 7e art, mais c'est pour mieux les retrouver la prochaine fois. En ce qui me concerne, j'ai du pain sur la planche pour vous les présenter. Elles sont nombreuses, vous avez déjà pu vous en rendre compte, et pourtant, nous ne sommes qu'au début du 20e siècle. Mais nous verrons tout cela la prochaine fois. En attendant, bonne digestion et merci de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Thank you.